Bonjour à tous, bonjour Estelle.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans l'Écho Local, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Couleur FM. Tous les jeudis à midi et en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h et le dimanche à midi, vous allez savoir ce qu'il se passe au cœur de votre territoire berjalien.
Une heure d'information, d'agenda, d'actu, de vie associative et culturelle, de musique, de chroniques et d'invités.
Aujourd'hui, jeudi 17 novembre, c'est déjà le 6e opus d'Écho Local, le menu radiophonique consacré à notre territoire sur Couleur FM. Au menu du jour, sport de combat, Shafia Djouara, championne du monde de full contact et kickboxing, nous parlera de son parcours et de son prochain combat à venir.
Culture, avant la chronique de Véronique Boulieu, Mathieu reçoit en interview Olivier Gorichon, comédien et colporteur d'histoire pour la compagnie La Boîte à Trucs. Il est accompagné de la comédienne Ariane Roger. Ils parleront de Gris, Vert et Azur, un spectacle sous forme de théâtre de papier imaginé sur le thème de la Grande Guerre, mais avant tout un spectacle humaniste.
Sans oublier nos petits reporters des écoles du territoire, les élèves de l'école de la Grive sont allés découvrir le métier d'architecte. Ils sont allés rencontrer et interviewer Sarah Lolanier, architecte collaboratrice à l'atelier Olivier Bourgeois.
Et pour le dessert, on s'envolera au Bénin avec Mathieu qui nous fera découvrir le nouvel album du légendaire groupe Vodou Funk, le tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou qui signe son grand retour.
Cette semaine, le portrait de l'écho local est consacré à Shafia Djouara, championne du monde de full contact et de kickboxing. Elle va remettre en jeu son titre le 26 novembre 2016 à l'occasion de la War Fight Night. Cela aura lieu au gymnase Saint-Hubert de l'île d'Abo. Elle nous parle de son parcours et de ce sport issu du karaté et de divers arts martiaux. On la retrouve au micro de Estelle Gély.
Sur Couleur FM, nous recevons Shafia Djouara, championne du monde, championne de France et championne d'Europe de full contact et kickboxing. Bonjour.
Bonjour.
Comment est née cette passion ?
Cette passion est née quand j'étais toute petite. Ma sœur a commencé par faire du full contact. J'ai commencé par le kung-fu et c'est quelque chose qui me plaisait bien, mais c'était pas assez physique pour moi. Donc j'ai suivi le chemin de ma sœur et je me suis retrouvée au full contact.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à découvrir justement les arts martiaux ?
Mais j'aime bien tout ce qui est sport de combat. J'ai toujours aimé, donc ça me convenait très bien.
Vous avez commencé à quel âge ?
Alors j'ai commencé le kung-fu à 7 ans et demi, 8 ans et le full contact j'ai vraiment commencé à 9 ans.
Donc sur Bourgoin-Jallieu, est-ce que vous êtes originaire d'ici ?
Alors je suis née sur Bourgoin-Jallieu, j'ai commencé le full contact avec Bayram à Bourgoin-Jallieu et je suis partie sur l'île d'Abo et j'ai suivi le club sur l'île d'Abo après.
Donc ça fait un petit moment maintenant que vous y êtes alors ?
Oui, ça fait une vingtaine d'années.
Alors en 20 ans justement, cette évolution, on va en parler. Est-ce que déjà de petite vous pensiez arriver à votre statut de championne du monde ?
Non, du tout. On pense pas à ça. On aime l'entraînement, on aime la compétition. Plus on avance, plus on a envie après de mettre des gants, de monter sur un ring. Mais petite, non. Jamais j'aurais pensé arriver où je suis aujourd'hui.
Quand est-ce qu'il s'est passé ce déclic dans votre tête ?
Mais les premières années de compétition, quand on a commencé en light contact, donc c'est de la touche, pas de coups forts, pas de KO autorisé. Et ce style de boxe me plaisait pas assez parce qu'il y avait pas de puissance. Donc du coup, à partir de 16 ans, on peut boxer en plein contact sur un ring. Donc c'est là où j'ai commencé à vraiment aimer le full contact.
Pour revenir sur le full contact, est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail par rapport à la boxe, quelles sont les différences?
Alors le full contact, c'est de la boxe anglaise avec des jambes. C'est comme si on prenait le taekwondo, l'anglaise. Voilà, on mélange tout ça, ça fait du full contact kickboxing. On a les deux.
Donc c'est-à-dire qu'on a le droit de taper où et
alors,
où on n'a pas le droit?
En full contact, on a le droit de taper au-dessus de la ceinture. Tous les coups en dessous de la ceinture sont interdits, sauf le balayage. Alors le balayage, c'est pour balayer quelqu'un, la prise du pied... le faire tomber, le perdre l'équilibre.
Et est-ce que vous avez des protections comme
En pro, on a... Non, en pro, on n'a plus de casque. Donc on a les gants, on a les protège-pieds, protège-tibia et c'est tout.
Aujourd'hui, vous êtes professionnelle ?
Oui.
Avant, quel était votre parcours ? Donc les compétitions, vous avez commencé tôt ?
Oui, 12 ans.
Ça commence. Jusqu'à 16 ans, c'est ça ? On n'a pas le droit de taper au-dessus par...
Les coups forts sont interdits, c'est de la touche et du contrôle sur tatami. Donc, et à partir de 16 ans, les coups sont... Le KO est autorisé sur ring.
À quel âge avez-vous connu votre premier titre de championne de France?
À quel âge? C'est loin ça, c'est très loin. 12 ans sûrement, mes premières années en light contact, donc j'étais titrée beaucoup de fois, et Coupe de France, Championnat de France, Coupe Rhône-Alpes, Coupe Isère, enfin plein de petites choses comme ça.
Et championne d'Europe et championne du monde, c'était à quel âge?
Championne d'Europe, c'était il y a 3 ans, championne du monde, c'était l'année dernière, et c'est pas si vieux, ouais. C'est récent.
Vous allez participer donc à la War Fight Night qui aura lieu le 26 novembre prochain au gymnase Saint-Hubert à l'île d'Abo.
C'est ça, oui.
Comment on se prépare pour un tel événement ?
La préparation, on commence depuis fin août, début septembre. C'est beaucoup d'entraînement. Beaucoup de temps, le matin, le soir. Pratiquement 2 entraînements par jour. Du cardio, de la mise de gants, plein de choses.
Est-ce qu'à côté, vous avez une autre activité professionnelle ou vraiment vous êtes axé, c'est devenu votre métier ?
Non, je travaille à côté. Le full contact, ça reste vraiment un sport, une passion, quelque chose que j'aime. Mais je travaille à côté.
Vous arrivez à organiser votre vie aussi de famille ?
Oui, on organise avec les enfants, avec le conjoint. Ça fait des années qu'on est dedans, donc maintenant, tout se met en place.
Steven Denisot, qui est votre entraîneur, compagnon, également.
C'est ça, oui.
Ah, c'est parce que lui aussi, il est sur le ring, c'est ça,
oui.
Il va monter sur le ring.
Oui, il prépare son championnat d'Europe, donc on sera tous les deux sur le ring, moi pour un championnat du monde, lui pour un championnat d'Europe. Donc c'est une grosse préparation de tous les deux, mais voilà, ça fait des années et des années qu'on est ensemble, on se connaît, on sait ce qu'il faut faire et...
Alors pour revenir sur la War Fight Night, qui aura lieu donc le 26 novembre, qui c'est que vous allez affronter justement ?
Une Française, Stéphanie Fourès, qui vient de Agde. Donc, qui est championne d'Europe, prétendante au championnat du monde, bien sûr. Donc voilà, un beau fight.
C'est la 3e édition, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Vous avez participé aux deux précédents.
Au premier et au deuxième, ouais, c'est ça.
Vous pouvez nous mettre dans l'ambiance, justement, qu'est-ce qui va se passer ce soir-là ?
Ça va être une soirée de fou. Très, très, très grosse soirée où on a 700-800 personnes. Beaucoup de combats professionnels, semi-professionnels, des fights, des jolis fights pour tout public. C'est à venir voir.
Donc, au total, il y aura combien de participants ? Une dizaine, c'est ça ?
Une dizaine, oui. Une dizaine de combats. Donc, une vingtaine de boxeurs.
Donc le full contact ne fait pas partie des sports olympiques.
Non.
Comment on organise justement les championnats du monde ? Comment sont organisés tout ça, les championnats d'Europe ?
Moi je suis là, je boxe, c'est Steven qui s'occupe de préparation du gala. Moi je suis vraiment dans ma préparation et c'est lui qui fait tout ça. Moi je me prépare.
Comment sont choisis justement les lieux d'accueil des championnats d'Europe, les championnats du monde ?
Ça dépend, c'est au bon vouloir de la personne, si on veut organiser. Donc on est organisateur, on aime bien. J'ai voulu faire mes championnats du monde à l'île d'Abo, dans ma ville bien sûr.
Est-ce qu'il y aura des participants étrangers également ou c'est essentiellement des Français ?
Ça sera essentiellement des Français normalement.
D'accord.
Peut-être un étranger, on verra.
Ça sera une surprise.
Ça sera une surprise.
Très bien. C'est un sport qu'on peut commencer très tôt,
oui.
Dès l'âge de 4 ans.
C'est ça.
Comment ça se passe à 4 ans ?
C'est beaucoup de pédagogie. On leur apprend le contrôle de soi, on leur fait, c'est ludique, c'est des petits jeux. Donc ils apprennent les mouvements de boxe, mais il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. C'est vraiment, à 4 ans, on découvre la droite, la gauche. Donc voilà, c'est beaucoup de motricité et on leur apprend plein de choses avec des échelles de rythme. Plein de petits jeux.
Quels sont les gens qui sont attirés par le full contact ? Est-ce qu'il y a une parité, par exemple, homme-femme ? Est-ce qu'il y a autant de filles, de jeunes filles qui s'y intéressent à ce sport ?
Eh bien, je vous aurais dit, il y a peut-être 10 ans en arrière, qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles.
Donc sur votre club, par exemple, ça représente à peu près combien de personnes ?
La moitié, je pense. On a beaucoup de filles. Que ce soit enfant ou adulte, les filles commencent à aimer la boxe.
Est-ce que vous pensez que c'est aussi dû, par exemple, à la médiatisation qu'il y a eu suite aux Jeux Olympiques, où la boxe a connu vraiment, on va dire, un succès ?
Je pense que c'est la boxe reste un sport, mais un moyen de se défendre aussi. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à se défendre. Je pense que les filles sont attirées par le sport. Après, il y a plusieurs sports, hein, le taekwondo, l'anglaise, voilà. Ce qui est bien dans le full contact, c'est qu'on fait les jambes et les poings.
Comment ça se passe du coup au niveau de votre préparation ? C'est combien d'heures d'entraînement par jour ?
L'entraînement, c'est le matin, une heure et demie le matin, et pareil, 2 heures le soir à peu près. Donc on est à 3h30 par jour d'entraînement.
Tous les jours, samedi, dimanche y compris ?
Tous les jours, non-stop.
Et après cette événement de la War Fight Night, quels seront les événements à venir pour vous ?
Pour le moment, je suis vraiment axée sur mon championnat du monde. Vraiment, voilà, j'ai quelque chose à défendre. J'ai mon titre à garder. À l'avenir, j'ai d'autres combats. On me propose d'autres choses. Mais voilà, je prends le temps de... Voilà, là, on y est dans 3 semaines. Et on parlera des choses après... Après le titre.
Est-ce que vous avez une pression ? Parce que c'est vrai que quand on est chez soi, en plus,
oui.
ça crée une pression supplémentaire.
La pression sur chaque combat, elle est là. C'est évident. On a toujours une petite crainte. Mais c'est vrai que de boxer à la maison, c'est un peu plus... Il y a une plus grosse pression, on va dire. Et le fait d'être championne du monde déjà, de conserver mon titre, c'est une autre pression aussi. Mais bon, on est là. Je serai prête. Je travaille pour. Je suis prête. Je serai prête. Et je serai là. Je serai présente.
Donc on rappelle, votre première adversaire sera donc
Stéphanie Fourès.
D'accord, une jeune française.
Voilà, c'est ça, une très bonne boxeuse.
Que vous avez déjà affrontée plusieurs fois.
Oui, en 2012, on s'est déjà rencontrés. Mais bon, 2012...
Ça remonte.
Ça remonte, voilà. Depuis, il y a de l'évolution des deux côtés. Donc ça va être un beau fight parce que c'est une fille qui a une très très bonne anglaise et qui a une belle boxe aussi et qui lâche rien non plus. Donc on lâche rien toutes les deux, donc ça va être joli.
Ce sera un joli spectacle à voir.
Voilà, exactement.
Est-ce que justement au niveau des participants, il y aura, on va dire, parité homme-femme ?
Il y aura d'autres combats féminins, oui, et des combats masculins aussi, mais il y aura un ou deux autres combats féminins normalement.
Parmi votre club, combien de participants ?
Alors dans notre club, Ramzi, Mélissa, Rodolphe, Suzanne, je dirais 4 ou 5.
Ça fait du monde quand même.
Ça fait du monde de chez nous, oui.
De belles médailles alors, c'est ça. De beaux titres.
Exactement.
Peut-être un dernier mot aussi pour nos auditeurs, leur donner envie de découvrir le full contact kickboxing et puis la War Fight Night.
Bien sûr, alors venez le 26 novembre, c'est une belle soirée qui vous attend. Fight, beaucoup de fights, de jolis combats, un show, une belle soirée. On a les Mademoiselle Isère, Mademoiselle Rhône-Alpes, plein de choses. Vous allez vous régaler.
Écoutez, merci beaucoup Shafia Djouara et puis bon courage pour votre compétition.
Merci.
C'était Shafia Djouara, championne du monde de full contact kickboxing, interviewée par Estelle Gély. Elle remet en jeu son titre le 26 novembre à l'occasion de la War Fight Night qui aura lieu au gymnase Saint-Hubert de l'île d'Abo. Des places sont à gagner, pour cela il suffit d'appeler la radio au 04 74 27 80 80. Et également sur le site internet www.couleurfm.fr. On marque une pause musicale, Leonard Cohen, poète, peintre, romancier et surtout auteur, compositeur, interprète canadien, s'est éteint la semaine dernière. Le 7 novembre, tous les musiciens de la planète ont rendu hommage à ce grand nom de la musique folk-rock américaine qui nous a tous touchés avec son tube interplanétaire Alléluia. On écoute un extrait de son dernier album en date, You Want It Darker, sorti quelques semaines avant sa disparition. Entre blues, folk, accent gospel, nappe aérienne bercée de poésie chantée par sa voix éraillée, repose en paix maestro. Leonard Cohen, On the Level.
I knew that it was wrong. I didn't have a doubt. I was time to get back home. And you were starting out. I said I best be moving on. You said we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Your crazy fragrance all around, your secrets all in view. My loss was saying found, my don't was saying do. Let's keep it on the level. When I walked away from you, I turned my back on the devil. Angel 2.
C'était le désormais regretté Leonard Cohen avec le titre « On the Level » de son dernier album « You Want It Darker ». Il est midi passé, vous êtes dans l'écho locale avec nous jusqu'à 13h. On va parler théâtre de papier, d'histoire de la guerre et surtout d'humanisme. Mathieu est allé interviewer Olivier Gorichon, comédien et colporteur d'histoire pour la compagnie La Boîte à Trucs. Il est accompagné de la comédienne Ariane Roger. Ils parleront de leurs pièces « Gris, vert et azur ».
Aujourd'hui, on parle de théâtre de papier. Avec moi, la compagnie Boîte à Trucs. Olivier Gorichon, comédien et colporteur d'histoire, et Ariane Roger, comédienne également à la Boîte à Trucs. On va également revenir en détail sur Gris, vert et azur. Bonjour Olivier, bonjour Ariane.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette forme de théâtre, le théâtre de papier.
Théâtre de papier. Alors, au départ, c'est une forme traditionnelle. La forme traditionnelle du théâtre de papier, c'est reproduire à la maison ce qu'on a pu voir dans les grands théâtres en spectacle de théâtre ou d'opéra, etc. Donc, on reconstruit en petit, en papier, des figurines et des théâtres qu'on a pu voir ailleurs en ville. Et puis, il y a eu une évolution de cette forme traditionnelle. Et aujourd'hui, c'est une forme de théâtre qui utilise le papier, le carton. Donc les marionnettes, si on peut appeler ça encore comme ça, sont des personnages en deux dimensions sur du papier ou du carton et qu'on peut très peu manipuler puisqu'on peut en gros les faire apparaître, les agiter un petit peu puis les faire disparaître. À part quelques petites astuces de trucage, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire.
Voilà, on peut les articuler, éventuellement un bras, une tête, un truc comme ça. Mais moi je dis que c'est des silhouettes.
C'est au confin entre la BD et le conte.
Tout à fait. Ah oui. Est-ce que vous en avez déjà vu? Parce que là, ce que vous dites, c'est ce que je dis moi-même. Là. C'est ce que je disais déjà cet après-midi aux spectateurs qui ont assisté à la présentation. Et c'est tout à fait la sensation qu'ils avaient. Ils assistent à une BD animée.
J'ai vu un extrait sur Internet. C'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille.
Ouais, c'est ça. Ah. C'est vraiment une sensation de faire une BD, de montrer des images aux spectateurs, de faire les voix de tous les personnages. Et j'ai la même sensation, quasiment la même sensation, quand j'avais mes gamins qui étaient assis sur mes genoux, que je leur montrais un album jeunesse, et on regardait les images ensemble, et je faisais les voix de tous les protagonistes qu'il pouvait y avoir dans une histoire. J'ai la même sensation, sauf que là, les spectateurs sont assis dans un fauteuil, et ils sont des fois trop nombreux pour que je les prenne tous sur mes genoux.
La Boîte à Trucs existe depuis combien de temps?
Depuis plus de 20 ans. On est basé à Villefontaine depuis 22 ans, je crois.
Oui, c'est la 23e année.
Pourquoi la Boîte à Trucs? Qu'est-ce qui s'est passé?
La boîte à trucs, c'est une boîte avec dedans des trucs, des choses et des bidules.
Voilà, c'est le yin et le yang, quoi. La boîte pour le yin et les trucs, c'est les yang. Voilà.
Et moi, c'est les trucs et les choses, justement, qui m'intriguent. C'est que du théâtre de papier qu'on trouve dans ces trucs et des choses?
C'est ça. Il y a pas mal d'autres bidules. C'est-à-dire que quand j'ai créé la compagnie de la Boîte à Trucs, j'arrive plus de l'univers de la marionnette et des objets manipulés et du théâtre d'objets, mais pas que. Ce qui fait que par extension, donc c'est la compagnie de la Boîte à Trucs, théâtre, marionnette, choses et bidules, parce que j'aime bien faire des surprises et bricoler intensément dans mes ateliers des surprises visuelles pour les spectateurs.
Vous avez combien de spectacles actuellement au sein de la Boîte à Trucs?
Alors, je vais parler des spectacles petite enfance. Moi, j'ai deux spectacles actuellement qui tournent dans les crèches parce que c'est vraiment pour les tout petits, les 0-3-4 ans. Plus deux spectacles de théâtre de papier Gris, vert et azur dont on va reparler tout à l'heure et puis un autre aussi en théâtre de papier qui s'appelle Carnet de poilu. Et puis, il y a les spectacles qu'Olivier joue. Il y en a quoi?
Alors, il y en a quatre.
Quatre.
C'est-à-dire qu'il y a... la boîte à trucs, le matériau de base, c'était plutôt les contes traditionnels et populaires. Alors, il y a des spectacles qu'on peut jouer... Moi, je fais du théâtre intergénérationnel. Je commence à 3 ans et ça peut aller jusqu'aux spectateurs qui ont 103 ans. C'est du familial.
J'ai l'impression que le rire est quand même très présent dans la boîte à trucs, dans vos spectacles. Même dans des moments assez difficiles, par exemple,
dans des sujets qui abordent des guerres ou d'autres choses. L'esprit de la compagnie, c'est ça. C'est un peu parler de plein de choses, faire un peu du BD reportage, théâtre de papier, sans oublier le rire, non ?
Sans oublier le rire, bien sûr. Alors là, en fait, sur les spectacles qui s'appellent Gris vert et azur et Carnet de poilu, on aborde un fond qui est plus grave et plus dense et plus intense avec des émotions humaines qu'on essaye d'amener sur la scène. Mais quand j'ai écrit Gris vert et azur, moi, mes petits camarades qui m'ont aidé à écrire le spectacle, et à Ariane entre autres, j'écrivais parce que moi j'étais plongé dans des livres d'histoire, j'écrivais des choses qui relataient ce que je venais de lire en lecture, puis les copains ils me disaient ben c'est sûr, là les spectateurs ils vont sortir ou ils pourront pas rester dans la salle parce que c'est trop lourd, c'est trop dense. Et du coup on a écrit ensemble des choses qui permettent d'avoir un spectacle dynamique, mais qui permet d'aller dans la densité des émotions et aussi dans des scènes qui sont beaucoup plus dynamiques.
Et pourquoi donc pour Gris vert et azur, qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour parler de cette Première Guerre mondiale 14-18?
Alors, Gris vert et azur, comment c'est né? C'est parce que j'étais sur la tombe de mon grand-père en Allemagne. Et mon deuxième grand-père, il est français. Et de là est née toute une réflexion que ça pouvait être intéressant, comme la guerre de 14 a eu lieu une centaine d'années, moi j'avais l'impression que ça commence à devenir comme une légende ou une épopée, et donc ça rejoint un peu ce fond d'histoire universel et intergénérationnel qu'on trouve dans les contes. J'ai pensé à ça, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant d'aborder ça. Et puis là, pour une fois, c'est un style d'écriture tout à fait différent parce qu'il y a un aspect autobiographique dans le spectacle. Alors, il y a à la fois l'histoire. Moi, je me suis plongé dans des livres d'histoire avant d'écrire le spectacle pour pouvoir avoir la réalité historique des faits. J'ai appris plein de choses dans les bouquins parce qu'ils étaient quand même assez épais. Là, s'il y en a un qui tombait sur vos pieds, vous le sentiriez passer, hein, je pense. et donc il y a, bon, il s'est passé des choses, plein de choses. Il s'est passé déjà plein de choses. On est face à un moment de l'histoire où les gens ont accès à l'écriture. La guerre a été longue. Très très longue, ce qui fait qu'on a beaucoup de témoignages, beaucoup, énormément de témoignages, et ce qui permet de pouvoir parler de cette période par plusieurs angles d'accès. Mais ce que je vous disais, c'est là où je vous reprends, c'est un spectacle sur les humains, c'est un spectacle sur mes deux grands-pères, qui étaient à un moment donné dans des camps opposés, face à face, alors qu'ils avaient des aspirations semblables. Et c'est de ça que je veux parler. Le reste, c'est le fond de l'histoire, c'est le fond du spectacle. J'ai lu des livres pour éviter de dire des bêtises historiques, mais le fond de l'histoire, c'est à chaque fois, moi je sursaute et ça me fait un pincement au cœur. C'est un spectacle, surtout sur les humains.
Le but est humaniste avant tout.
Oh là là.
Mais
oui, c'est un spectacle sur la paix.
Mais il y a parallèlement un peu un rôle d'historien. Il y a un processus de transmission de la mémoire à travers cette pièce quand même, de continuité.
Alors il y a une mémoire collective par rapport à un événement comme ça. Et c'est là où je remercie mes camarades de m'avoir poussé à écrire un spectacle qui soit plus dynamique que mes premiers écrits. Parce que c'est le fond de l'histoire, il est ce qu'il est, et il est passé dans l'inconscient collectif comme étant une période de souffrance, ce qui est vrai. Mais du coup, les gens ne savent pas comment l'aborder. Les gens ne savent pas comment aborder la souffrance de leurs arrière-grands-parents ou grands-parents. Ils ont du mal à l'aborder, ils ont du mal parce que déjà à cette époque-là, on n'avait pas de cellules psychologiques, hein. Et puis en plus c'était des taiseux, et puis en plus ils venaient d'éventrer des ennemis, ils allaient rentrer chez eux et dire à leurs femmes, à leurs enfants, ah, j'en ai tué trois ce matin. Donc c'est une période où la parole, n'a pas été choisi comme véhicule des expériences et des souffrances humaines. Donc les gens ont un peu du mal, alors que c'est un spectacle qui veut parler de la paix et qui est humaniste.
Avant de parler plus en détail de ce spectacle, on va marquer une première pause musicale. Avez-vous un morceau que vous voulez écouter dans l'émission qui vous est consacrée ?
Moi, je dirais Imagine de John Lennon.
John Lennon, Imagine, c'est la sélection de Olivier Gorichon, comédien et colporteur d'histoire pour la compagnie Boîte à Trucs. Il est accompagné de la comédienne Ariane Roger. Ils sont avec nous pour nous présenter Gris, Vert et Azur, un spectacle sous forme de théâtre de papier imaginé sur le thème de la Grande Guerre, mais avant tout un spectacle humaniste.
Votre travail donc d'écriture, de recherche, comment ça s'est passé ? Vous avez, outre les bouquins d'historiens, je pense, vous avez dû trouver des lettres de poilus, des récits. Vous êtes allé voir peut-être des enfants de parents qui ont fait la guerre. Il y a dû avoir un véritable travail de recherche qui a été fait.
C'est surtout toi qui l'as fait, le travail de recherche, Olivier. Oui, il y a eu un vrai travail de recherche. Oui, je pense de bouquins historiques, effectivement. Puis en faisant des recherches, Olivier a trouvé aussi des témoignages de personnes qui ont vécu la guerre ou qui ont écrit des écrits entre... notamment un carnet de poilu, voilà. C'est un carnet de dessin d'un père qui était à la guerre et qui écrivait à sa petite fille. Donc il dessinait, il écrivait ce qu'il voyait.
Et là, donc, c'est le projet sur lequel Ariane joue et interprète. Ça s'appelle Carnet de poilu et c'est une adaptation d'un carnet d'esquisse. Ce qui m'a touché dans les recherches que j'ai faites, c'est de voir que dans ces circonstances, les soldats dans les tranchées, qu'on soit du côté allemand ou du côté français, entre les combats, la vie continuait, d'autant plus intensément. C'est-à-dire qu'ils ont, Ils écrivaient à leur famille, mais ils ont aussi fait des caricatures. Ils ont aussi publié des journaux. Ça veut dire, en ce temps-là, en 1914, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas les smartphones. Donc, ils étaient friands d'avoir des nouvelles. Et ils se sont débrouillés à cette époque, malgré les restrictions, pour faire leurs propres journaux, qui étaient distribués dans les tranchées. Et ils faisaient des caricatures, des hommes politiques de l'époque. Et quand ça passait à la censure, on a des témoignages qui sont super intéressants, très émouvants. Ils fabriquaient aussi des objets à partir des douilles. Ils fabriquaient des bracelets, des bagues, des vases. On a une vie. Une vie qui est très intense, d'autant plus intense qu'il devait côtoyer des moments terribles.
Donc pour un enfant de 8 ans, comment vous avez quand même adapté? On peut avoir un petit, on va dire, teaser de Gris et Rasure. Comment ça se passe? Quand on arrive là-bas, on s'assoit, admettons, je suis avec mon neveu de 8 ans. Mmh. Quel est l'univers de Gris, Vert et Azur, l'univers esthétique?
Mmh. L'univers esthétique. Alors déjà, j'ai travaillé avec un plasticien qui s'appelle Christophe Carmelino. Il a eu aussi de son côté toute une recherche pour pouvoir me proposer des silhouettes à partir de costumes de l'époque, d'uniformes de l'époque. Donc il m'a dessiné plusieurs personnages en fonction de ce que moi j'écrivais. Je lui disais, tu vois, dans cette scène-là, je vais avoir deux personnages. Donc y en a un, il faut qu'il regarde vers la droite et l'autre, il regarde vers la gauche. Et puis il faudrait qu'il ait cette taille-là. Après, on a fait des choix. Des fois, on voit les silhouettes en entier, en pied. Et il ne fallait pas qu'elles soient trop grandes. Il fallait que la taille soit raisonnable. Puis des fois, on fait des gros plans. On voit le visage. On voit que le visage, c'est-à-dire qu'on a des visages de certains personnages qui sont quasiment à peu près à l'échelle d'un visage humain.
D'accord.
Voilà. Et après, alors c'est très très radiophonique, bien sûr. Y a aussi tout le travail avec les voix. Ça, c'est une question qui revient souvent dans le public. C'est comment faites-vous toutes les voix?
Ah ouais, parce que c'est vrai, je fais des voix de plusieurs personnages, quoi. Il y en a un, il est de l'assistance.
Et puis, il y a les voix beaucoup plus graves. Puis, il y a aussi Joffre.
Ouais, nous allons vous faire la guerre à outrance.
Puis en face,
il y a les foies des Allemands, vous savez. Ceux qui donnent les ordres, bien sûr.
Major, est-ce que c'est vrai ce que les soldats racontent? La guerre est finie?
Voilà, on fait plusieurs voix de personnages. Je reste visible. C'est une manière de faire le théâtre. Comme en plus c'est autobiographique. En fait, si je vous raconte ça à la radio, après, vous aurez moins la surprise en venant voir le spectacle. Mais il y a un dispositif qui fait que comme c'est un spectacle qui est avant tout autobiographique, je reste présent. Et j'ai des boîtes d'où je vais sortir mes objets. Mes personnages.
La pièce, pour rappel, existe depuis combien de temps?
Je l'ai créée en janvier 2015.
Avec toutes vos représentations que vous avez pu faire, est-ce qu'elle a évolué un petit peu?
Bien sûr.
Et tout le temps, je pense.
Il n'y a jamais deux représentations pareilles. Jamais, c'est impossible. La semaine prochaine, nous allons jouer sur Villefontaine. En fait, Ariane, ça fait un moment qu'elle n'a assisté à aucune représentation, donc ça va être un moment où Ariane va revenir la semaine prochaine et va peut-être me dire mais ça on garde et ça on enlève, parce que c'est vrai que le spectacle, il y a des fois c'est l'inspiration, on trouve une nouvelle manière de dire la phrase, une nouvelle manière un nouveau rythme dans certains cas. Il n'y a jamais deux représentations pareilles. Ça, c'est un des aspects les plus importants. On fait du spectacle vivant.
Oui.
Si vous voulez du spectacle en boîte, vous prenez la zapette.
Hein? Regardez la télé.
Voilà, si vous voulez du spectacle en boîte, voilà. Et là, en l'occurrence, c'est du spectacle vivant. C'est-à-dire que j'ai des séances où les gens sont assez réactifs et à tout ce qui est drôle, je vais les entendre pouffer, je vais les entendre rire. Et il y a des séances où les gens sont plus dans une dimension de tout ce qui va toucher humainement et il y a moins de réactions. Et là, de toute façon, je continue, quel que soit le vent qui m'emporte, comme le vent des globes. Moi, quand je pars sur un spectacle, c'est un, c'est un truc sportif. Hein. Faut faire les voix, faut avoir un sens du rythme, un sens du tempo comme un musicien. Je pars pour une traversée et quel que soit le vent, moi j'avance. Je dois avancer avec mon spectacle. Donc il y a des réactions et il y a des fois un peu comme une inspiration. Et c'est du spectacle vivant.
Quel est votre meilleur souvenir avec Gris Vert Azur?
Les meilleurs souvenirs, ben c'est souvent les débats avec les élèves après les spectacles. C'est la troisième mi-temps, c'est quand j'ai les questions des élèves à la fin et aussi leurs remarques, leurs appréciations sur ce qu'ils viennent de voir, sur ce qu'ils viennent de vivre.
On rappelle que vous jouez de Gris Vert et Azur le mardi 15 à 18h30, le jeudi 17 à 20h et le vendredi 18 à 20h30, c'est à l'espace Jacques Prévert à Villefontaine.
Voilà. C'est un projet qui est relativement important. Je m'excuse, peut-être que l'antenne va être coupée assez rapidement. En fait, là, vous avez annoncé les séances ouvertes au public. Il y a des séances scolaires qui se rajoutent à cet emploi du temps. Bon, c'est impossible d'annoncer les horaires à cet endroit-là. Et c'est un projet auquel a participé notamment les aéroports de Lyon. Ils ont participé financièrement au montage des différentes représentations qui ont lieu donc aujourd'hui et la semaine prochaine. À Villefontaine. À la salle Jacques Prévert.
Merci beaucoup d'être venu à notre rencontre à Couleur FM. Et on vous souhaite trois
Merci.
Belles représentations. Et pas que trois, que des belles représentations.
C'était le reportage de la semaine avec Olivier Gorichon et Ariane Roger de la compagnie Boîte à Trucs. N'oubliez pas, ils seront en représentation pour leur spectacle Gris, Vert et Azur ce soir. Le 17 novembre à 20h et le 18 novembre à 20h30 à l'espace Jacques Prévert à Villefontaine.
On marque une nouvelle pause musicale. Il avait conquis tout le monde le 13 juillet dans le Théâtre Antique de Vienne lors du Jazz à Vienne. Fada Freddy, le soulman rappeur sénégalais, a sorti l'an passé Gospel Journée, un disque acoustique entre percus corporels et gospel. Fada Freddy, We Sing In Time.
In time, the trees die in light. Will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time, the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away.
Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. Body electric until the machine and soul are one. I've seen the twinkles travel, the rangers line the floor. The cycle turned to life, a dead-end jobs and government's war.
In time, the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. For a new breath, a new life to take me away.
One by one the monsters trample the woods and dirt they feed. What's all the world in plight for our children must we leave. Let us burn the nation's budget. Let's send boys overseas to fight ghosts in the desert.
For a new breath, a new life to take me away. In time, the trees die in light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away.
Singing time,
jump, 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 jump.
Hey, sing it.
Singing time.
But I hope for a new breath.
C'était le désormais célèbre chanteur rap soul gospel Fada Freddy avec We Sing In Time.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 97.1, vous êtes dans l'écho locale, une émission consacrée à l'actu culturel de notre territoire, diffusée sur Couleur FM tous les jeudis de midi à 13h et rediffusée les vendredis à 19h, les samedis à 7h et le dimanche à midi. C'est l'heure de la deuxième partie de notre émission, on part dans le monde de l'art visuel, place à la rubrique cinéma de Véronique Boulieu.
Merci Estelle. Quatre nouveautés cette semaine au cinéma Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, notre partenaire. Iris, un thriller français de Jalil Lesper avec Romain Duris, Charlotte Lebon et Jalil Lesper. Le Petit Locataire, une comédie française de Nadège Loiseau avec Karine Viard, Philippe Rébot et Hélène Vincent. Les Têtes de l'Emploi, une comédie française d'Alexandre Charlot et Franck Magnier avec Franck Dubosc, Elsa Zilberstein et François-Xavier Demaison. Les Animaux Fantastiques, un film d'aventure anglais de David Yates avec Eddie Redmayne, Colin Farrell, John Voight et Catherine Waterston. Cette semaine, mon coup de cœur ira pour le film Moi, Daniel Blake, un drame anglais de Ken Loach avec Dave Jones et Hayley Squires. L'histoire. Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au Job Center, Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants, qui a été contrainte d'accepter un logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et Cathy vont tenter de s'entraider. Attention, film déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Pour plus d'informations sur les séances, www.kinépolis.fr. On retrouve Mathieu et Estelle pour la suite de l'émission L'écho local.
Merci Véronique, c'est l'heure maintenant de nos petits reporters avec qui nous intervenons pour les former au métier de la radio dans le cadre d'étapes, temps d'activités périscolaires. Les élèves de l'école de la Grive ont découvert le métier d'architecte. Pour cela, ils sont allés interviewer Sarah Lolagnet, architecte collaboratrice à l'atelier Olivier Bourgeois.
Vous allez maintenant tout savoir sur l'architecture Bourgoin-Jallieu avec l'interview de Sarah, architecte pour notre reporter Noah.
Bonjour, comment vous appelez-vous ?
Bonjour, je m'appelle Sarah Lelanier, je suis architecte à Bourgoin.
Okay. Quel âge avez-vous ?
J'ai 25 ans.
Comment devient-on architecte ?
Alors, on devient architecte avec Bac plus 6. Donc, ce sont des études un petit peu longues qui se trouvent en école d'architecture.
Okay. Pourquoi êtes-vous devenu architecte ?
Eh bien, parce que j'aimais beaucoup le chantier, les matériaux, les techniques de construction. Ça m'intéressait d'être à la fois sur le terrain et dans un bureau à travailler en plan.
Comment s'appelle votre cabinet ?
Atelier Olivier Bourgeois, architecte.
Quelle est la spécialité ?
Notre spécialité, c'est de construire des maisons individuelles neuves.
Où se situe votre cabinet ?
Mon cabinet se situe 10 A rue Joseph Cugnot à Bourgoin-Jallieu.
Quelles sont les fonctions de votre métier ?
Les fonctions, alors il y en a beaucoup. Essentiellement, je dirais que nous sommes des services en fait à la personne pour aider les personnes à construire leur maison essentiellement.
Quels sont les projets pour cette année ?
Nous construisons beaucoup de maisons individuelles neuves.
Quelle est votre opinion sur l'urbanisme à Bourgoin-Jallieu ?
Alors je découvre petit à petit Bourgoin-Jallieu, donc pour l'instant je connais pas très bien encore, mais j'appréhende à beaucoup mieux connaître ce territoire qui est vraiment très beau.
Qu'est-ce qu'il y a à améliorer à Bourgoin-Jallieu selon vous ?
Pour moi, pour l'instant, je saurais pas encore vous répondre.
Qu'est-ce que vous préférerez faire dans Bourgoin-Jallieu au niveau architecture ?
Eh bien, construire de beaux bâtiments fonctionnels et qui soient utiles aux citoyens.
Sur quel chantier êtes-vous actuellement ?
Je suis toujours sur les maisons individuelles, essentiellement en bureau, donc tout ce qui est étude de plan pour le moment.
C'est quoi une maison individuelle neuve ?
C'est une maison qu'on construit du début jusqu'à la fin, personnalisée par rapport à des clients.
Quel serait votre rêve dans ce métier ?
Mon rêve, c'est de devenir une vraie architecte qui puisse tout construire de A à Z et être responsable de mes propres actes.
Faites-vous des villas ?
Oui, je fais plusieurs villas.
Est-ce que votre métier est difficile ?
C'est pas toujours facile, mais après, comme dans chaque métier, il y a toujours des difficultés, mais je pense qu'il faut savoir garder du plaisir dans ce qu'on fait.
Comment vous y prenez-vous pour dessiner des plans ?
Alors, nous avons certains outils informatiques modernes, on va dire. Donc, tout se passe par ordinateur et nous travaillons essentiellement en trois dimensions.
Avez-vous déjà eu des erreurs dans vos plans ?
Oui, ça arrive, mais on essaye de vite les corriger.
Et des ouvriers ont déjà mal interprété vos plans ?
Oui, ça arrive. C'est aussi des erreurs de communication, mais l'erreur, elle vient des deux côtés.
Avez-vous déjà fait vous-même une architecture ?
Petit à petit, non, pas encore complètement.
Est-ce que c'est vous qui allez construire les autres classes en 2017 de l'école ? Ici à côté. Ici.
Non, je pense que ça sera des collègues à moi.
Est-ce que vous avez déjà fait des mini-architectures ? Enfin, des petites ?
Oui, alors des petits bâtiments, j'imagine tu veux parler. Alors effectivement, des petits espaces, j'en ai déjà fait et c'est très intéressant parce qu'on va jusqu'au détail, parfois des meubles.
Vous allez que dans les villes pour faire ça ou en campagne ?
À la fois en ville, en campagne, de partout, en périphérie, de partout.
Non. Ah oui, avez-vous déjà construit des statues ?
Non, pas encore. Mais je pense que c'est un métier où il faut savoir être curieux, attentif et très rigoureux. Et prendre du plaisir dans ce que tu fais.
J'aime bien faire des constructions. Déjà, chez moi, avec des Lego, j'ai plein de bacs avec des Lego. Je fais plein de constructions, etc. Et j'aimerais bien faire architecte pour construire des grands bâtiments.
C'est bien, ça commence par là, de commencer à agencer les volumes, l'espace. On commence par les Lego, les caplas, et puis petit à petit, on arrive à du dessin en 2D et puis en 3 dimensions. Mais c'est bien, il faut que tu continues.
À votre avis, est-ce que vous allez être connu ?
Je sais pas, je sais pas. En tout cas, par vous, oui, je serai connue.
Qu'est-ce qui est bien à faire dans une école en architecture ?
Alors, je dirais peut-être la cour, parce que c'est l'endroit où les enfants s'amusent, où effectivement, vous êtes en récréation, vous n'êtes plus en classe, et vous pouvez imaginer, vous libérer, vous défouler. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire entre le paysage, environnement et les murs qui vous entourent.
Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci d'être passé sur Radio Blabla, l'émission qui parle de tout en restant cool.
C'était les petits reporters de l'école de la Griffe qui sont allés découvrir Sarah Lolagnier, architecte à l'atelier Olivier Bourgeois. Vous êtes en direct de l'éco locale sur Couleur FM. Pour terminer ce menu radiophonique, Mathieu nous emmène en balade sonore autour du monde. Alors Mathieu, où va-t-on aujourd'hui ?
Préparez-vous, on part dans une autre localité.
On s'envole maintenant au Bénin, écouter le retour et le nouvel album d'un des plus grands orchestres vaudou funk afrobeat d'Afrique de l'Ouest. Le tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou dans le disque de la semaine.
Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crêpes.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est pour moi le plus beau de la semaine.
Le disque de la semaine.
One, two.
Tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou. C'est sans doute l'un des plus vieux et l'un des meilleurs orchestres africains. Ils sont même les initiateurs du groove afro. Les membres du Polyrythmo et leur chef Clément Mélomé ont développé dès 68 une fusion des musiques africaines et occidentales. Un groove imparable et survolté né d'un mélange explosif de musique traditionnelle béninoise, de soul, de funk américain, d'afrobeat nigérian, de rumba congolaise, de highlife ghanéen, mais aussi de variété française et de rythme afro-cubain. En gros, tout passait dans le rouleau compresseur de leur groove tout-puissant. Cette ingestion parfaite des rythmes du globe imposa leur nom. Polyrythmo, le tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou. Artisan unique, il est l'un des plus grands ensembles africains. Aujourd'hui, ce sont plus que 10 copains encore en vie, 50 ans de musique et près de 500 morceaux. 5 ans après la sortie de leur album Cotonou Club, la formation béninoise renaît de ses cendres avec un nouvel album vaudou funk afrobeat. Maja Falao, Prends Garde, sorti chez Because Music. L'orchestre Polyrythmo de Cotonou a influencé plusieurs générations de musiciens. Pourtant, malgré ses concerts aux côtés de Fela Kuti, Manu Dibango ou encore Myriam Makeba, leurs centaines de 45 tours et leurs dizaines d'albums publiés entre 69 et le milieu des années 80 est souvent resté méconnu hors des frontières du continent africain. Aujourd'hui, grâce notamment au travail de Elodie Maillot, productrice à France Culture, le groupe se reforme et entame une longue tournée internationale depuis 2009. Aujourd'hui, maintenant, dans quasiment toutes les soirées tropicales, leur vaudou funk inonde les pistes de danse. Ja, 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 lo. Ja, 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 lo. Après le décès du leader Clément Mélomé en décembre 2012, le chanteur Vincent Aéinou, le bassiste Gustave Bento et le chanteur Loco Pierre ont décidé de perpétuer la danse immortelle du polyrythmo. Avec ce nouvel album Maja Falao, avec 10 titres enregistrés dans le légendaire studio Satel de Cotonou, là où tout avait commencé. Un nouveau chapitre s'ouvre pour ce groupe et aussi pour ce groove vaudou surpuissant, intemporel, avec ses cuivres énergiques et ses rythmiques irremplaçables. Réalisé par le Burkinabé Eliezer Oubda et produit par Florent Mazzoleni, cet album écrit un nouveau chapitre de l'histoire du groupe Polyrythmo de Cotonou. Ce disque, en plus d'être un voyage musical, c'est un véritable retour dans l'âge d'or de ses musiques, dans les années 60. Voodoo funk, afrobeat, une multitude d'influences, Maja Falao donne le ton de ce disque généreux. Des thèmes évoquant la société béninoise, la complexité des relations amoureuses ou le quotidien, guidés par des percussions redoutables, des cuivres percutants et des chœurs exaltés, et chantés par la voix souple de Vincent Aéinou. Je vous recommande ce véritable bouillon énergique et énergisant qui colle parfaitement à l'image de ces sexagénaires encore en grande forme. Le tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou, c'est mon disque de la semaine, Africa Lonlon.
Africa lolong, yeah. Africa, Africa mon amour, Africa, berceau de l'humanité, Afrique Mandela, Africa, terre.
terre des Amazones, terre des pharaons, berceau des divinités, Oricha et Django. Je chanterai pour toi mes meilleures mélodies. Africa. Afrique Mandela, Africa. Terre des Amazones, Africa. Terre des pharaons, Africa. Berceau des divinités, Africa. Oricha et Django, Africa. Je chanterai pour toi.
Orchestre Polyrythmo de Cotonou avec Africa Lonlon, extrait de leur nouvel album qui signe leur retour, Madja Falao. Ils sont actuellement en tournée internationale et en France depuis le 28 octobre. Je pense qu'en live ça va être une tuerie et un retour dans ces années 60 prodigieuses.
Vie municipale, cinéma, concerts, ateliers et vernissage, il se passe beaucoup de choses dans le coin où vous a sélectionné quelques petites sorties à ne pas manquer. Place à l'agenda.
Le collectif Eau Bien Public organise une réunion débat table ronde pour une gestion publique et transparente de l'eau sur la Capi, avec la participation d'élus municipaux et communautaires dont Raymond Fessaguet, ancien maire de Villefontaine, et Michel Rival, maire de Nivaux-la-Vermelle, ainsi que des associations d'usagers. Rendez-vous donc le lundi 21 novembre à 20h à la grande salle banalisée de Champaré à Bourgoin-Jallieu.
Recensement de la population, appel à candidature à la Verpillière. Dans le cadre du recensement de la population de 2017, la municipalité lance aux Vulpiliens un appel à candidature pour recruter 10 agents recenseurs. Votre candidature est à déposer ou à envoyer en mairie avant le 30 novembre 2016. Un recensement qui se fera du 19 janvier au 18 février 2017 et qui permet d'établir le nombre d'habitants légaux résidant dans chaque commune. Pour information, les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les 5 ans. Sachez que vous pouvez également faire le choix d'être recensé par internet. Pour cela, un agent recenseur vous expliquera la marche à suivre. En 2016, un habitant sur deux a opté pour cette solution.
Les conseils municipaux à venir. Le prochain conseil municipal à Bourgoin-Jallieu aura lieu le lundi 28 novembre à la Halle Grenette à partir de 20h. Et également le 29 novembre à la Tour du Pin.
Dans le cadre des Féeries 2016-2017, la mairie de Bourgoin-Jallieu vous propose une visite guidée insolite par Délice Dada, l'occasion de redécouvrir durant une trentaine de minutes le centre-ville de Bourgoin-Jallieu grâce au spectacle. Rendez-vous donc le samedi 26 novembre à 11h, 14h ou 15h en centre-ville.
Le 12e festival Brisons le silence contre les violences conjugales, organisé par l'association Filaction, aura lieu cette année du 20 novembre au 4 décembre, à travers plusieurs villes dans notre région comme Lyon, Villeurbanne, Hébron, Crémieux et la Tour du Pin. A cette occasion, une projection suivie d'un débat en partenariat avec la bibliothèque de Crémieux aura lieu le mercredi 23 novembre dès 20h à la salle audio de Crémieux.
Si vous avez envie de rire, l'humoriste Vincent Dedienne sera de passage au théâtre du Velin de Villefontaine le lundi 21 et mardi 22 novembre à 20h30. Il viendra présenter son nouveau spectacle intitulé « S'il se passe quelque chose ».
L'association De Quoi Je Me Mêle vous présente son spectacle intitulé Cabaret. Pour y assister, rendez-vous le samedi 26 novembre à la salle des fêtes de Nivola-Vermel.
Et n'oubliez pas, si vous ne nous écoutez pas en rediffusion, ce vendredi 18 novembre, Arnaud, le chanteur rock engagé, se produira à la SMAC Les Abattoirs dès 20h30 avec en première partie, venu de Nancy, Mêle.
L'écho local touche à sa fin, on se retrouve jeudi à midi pour un nouvel opus. Retrouvez nos émissions également sur le site internet de Couleur FM ou en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h du matin et le dimanche à midi.
Une émission présentée par Mathieu Giraud
et Estelle Gély.
On termine avec la citation du jour présentée par Véronique Boulieu.
Très bonne semaine à vous.
Merci Estelle, merci Mathieu. Ma citation du jour sera de Sénèque, un philosophe latin, défenseur acharné de la liberté politique et de la justice sociale. J'ai choisi nécessairement, le hasard a beaucoup de pouvoir sur nous, puisque c'est par hasard que nous vivons.
Merci Véronique, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle immersion dans le territoire berjalien, dans l'éco-locale.